Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent. On est à la Maison dans le Jardin, un accueil de jour du SAMU Social. On est vendredi 20 février.
Bonjour, je m'appelle Keita Alassane.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Mahmoud Ndiadé.
Je m'appelle Noël, comme le nom l'indique, je suis né le 25 décembre.
Bonjour, moi c'est Ibrahim.
Bonjour à tous.
On s'est déjà vu il y a longtemps, mais je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui.
Moi, je m'appelle Samuel, voilà, je viens de Nantes. Voilà, j'ai une fille, tout va bien, mais en l'occurrence, en ce moment, c'est un peu la galère. Voilà.
Bonjour, moi c'est Isabeau. Je fais partie de l'équipe Radio Mobile. Je suis contente de vous voir.
Bonjour. Comme tous les jours. Bonjour à la radio mobile de Paris.
Et bonjour à toutes et tous, moi c'est Florian et bienvenue sur la radio, dans la maison, dans le jardin.
Bonjour, c'est Séni, bienvenue auditeurs et auditrices.
On a écouté avant le début de l'émission un titre d'une femme qui s'appelle Amy Winehouse. Est-ce que vous la connaissez à peu près?
Oui.
Allez-y Dylan.
Mordre que j'ai caché.
Elle était alcoolique, en effet, non?
Elle avait une super voix. C'est une très grande chanteuse. Ça, tu peux pas lui enlever, ça.
Alors, cette chanson, là, ce passage est assez triste. Il annonce peut-être aussi le destin de cette grande artiste.
C'est le Club des 27. Le Club des 27, avec Kurt Cobain et... Il y avait qui d'autre? Hendrix, ouais. Enfin, tous ceux qui sont morts à 27 ans, c'était des grands chanteurs.
On peut aussi dire une vie de débauche. Une vie de débauche, d'excès, et malgré tout un talent. Du gâchis, tout simplement.
Ah mais bon, il y avait la drogue aussi, il y avait l'alcool et la drogue hein, pour Amy Winehouse.
Est-ce que ça aurait été aussi la même personne avec le même talent sans les substances? C'est peut-être ça aussi qui l'a propulsée sur le devant de la scène, de trouver ce courage. C'est ce qu'elle avait dit dans une interview, que sans ça, elle n'était pas la même.
Il a raison. Moi, je suis pas le même quand j'ai pris des substances ou de l'alcool. Normalement, je parlerais pas devant tout le monde comme ça. Vous voyez? Donc, à mon avis, avec les substances, et en plus, elle était avec Blake, font que ça l'a propulsée. Il a raison, monsieur.
La plupart qui prennent ça, ils savent que c'est nocif, mais ils le prennent quand même. Parce que devant un grand public, il faut un remontant. Tu vois qu'il les stimule, qu'il les font avancer, et chanter, ou tenir un discours. C'est pour ça qu'ils se donnent à la drogue. Avant, c'était l'opium.
Je pense que on ne peut pas justifier un talent devant la drogue ou l'alcool. Le talent, elle l'avait déjà, parce qu'il y a des vidéos de Amy Winehouse quand elle a 15 ans, 14 ans. Elle a déjà ce talent, elle a déjà cette voix, ce timbre jazzy. Elle l'a depuis qu'elle est adolescente. Et elle ne prenait pas ces substances-là à cette époque-là. C'est comme pour Bob Marley, comme pour Kurt Cobain qui s'est suicidé. Dalida s'est suicidée, elle ne se droguait pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'alcool et la drogue vont avoir un impact sur le message qu'on va donner. Mais par contre, le talent, vous l'avez.
Oui, mais je crois que vous n'avez pas tous raison parce que quand vous êtes musicien, c'est dans l'âme. Et vous n'allez pas nous faire croire que en prenant de la drogue, ça va changer quelque chose et tout ça. Si vous êtes moins entreprenant, vous n'arriverez à rien. C'est pas tout le monde qui prend la drogue. Et tout ce monde-là qui prend pas la drogue, qu'est-ce que vous en dites de ces gens-là?
Je pense que chaque artiste a un rapport personnel à la drogue. Il y a des artistes comme Michael Jackson qui n'avaient pas besoin de drogue pour monter sur scène, mais qui avaient plus besoin de substances après coup. C'est-à-dire pour soigner son enfance, pour soigner effectivement la célébrité qu'il avait, mais ce n'était pas dans sa création. Mais on ne peut pas cacher le talent derrière la drogue. Ça, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est dans l'âme, c'est du divin. On vous l'a donné en arrivant sur Terre.
Est-ce que cette figure de l'artiste qui boit ou qui se drogue, c'est partout? Comment c'est dans d'autres endroits du monde ? Est-ce que l'artiste, il est associé toujours à quelque chose comme ça, débordement d'alcool, de drogue ?
L'Afrique qui est le berceau de l'humanité, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des ethnies qui appartiennent au monde artistique, notamment les griots, et sur lesquels, effectivement, cette culture, l'art, le chant, la danse, à l'époque, c'était la mémoire du village, hein, les testaments étaient confiés aux griots. Et c'est vrai que toute cette partie artistique a existé sans aucune substance. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est lorsque la musique a été industrialisée qu'effectivement, des univers se sont constitués sous emprise de drogue ou d'alcool. Mais initialement, non. Les griots appartenaient au royaume, donc au roi. Mais après, Senghor, le premier président, a voulu perpétuer cette tradition et ces artistes-là continuer à animer les naissances, les décès jusqu'à aujourd'hui dans toute l'Afrique. De manière saine, comme au Maroc, aussi dans le désert, vous avez des ethnies qui continuent à perpétuer cette tradition de manière saine.
Oui, ça fait penser au Gnawa. On a reçu ici à Radio Mobile Paris un artiste du désert qui a joué de la musique Gnawa. Alors en effet, il n'y a pas de substance, mais il y a quelque chose de très étrange qui est le phénomène de la transe, non ? Il y a un phénomène qui nous amène ailleurs peut-être, non ? C'est ce qu'il décrivait. Qui veut parler de ça, de la transe ou de la danse ?
Je parlerai d'adrénaline quand je danse. Je ne connais pas la transe, mais il y a un effet de bonheur, de ressenti, de joie, de bonheur, de danser, effectivement. Sans substance, il n'y a pas besoin de substance pour ça.
Moi, quand je danse, je me sens bien. Ou comme certains ici le savent, que je chante de temps en temps. Et là, je me sens encore mieux. Pas de transe, pas rien d'autre.
Moi, j'ai pas besoin de substance quand il y a de la tribe. Ce qui est bizarre.
C'est quoi de la tribe, pardon ?
De la tribe, c'est de la musique techno. C'est un peu... c'est avant l'artech et l'hardcore, tu vois. Moi, tu mets ça, je m'envole.
Et tout à l'heure, monsieur, vous parliez aussi de la musique dans les baptêmes et dans les enterrements. Comment ça se passe, ça ? Il y a des groupes de musique qui viennent jouer, qui accompagnent ? Comment
c'est ? Parce qu'en Afrique, depuis la nuit des temps, si vous voulez, on est sur un cycle continu. C'est-à-dire qu'en fait, que quand une personne meurt, on ne dit pas qu'elle est morte, on dit qu'elle a fini de travailler. Et en fait, c'est pour ça que l'enterrement se fait aussi en musique, avec les griots qui vont venir chanter les louanges et le parcours de l'homme ou de la femme qui a quitté le village, parce que, en fait, c'est une autre vie qui commence. Donc aussi bien une naissance, un baptême ou un enterrement se fera en musique, et en musique traditionnelle.
Et donc le griot a cette fonction-là ?
Dans quelques pays... La mort, pour eux, c'est un voyage éternel, fini. Et puis, on ne pleure pas nos morts, on les fête, on fête la mort. C'est ça la différence entre l'Europe et les pays d'Afrique, parce qu'il y a une coutume ancestrale qui continue. Quelqu'un meurt, on dit qu'il a fini son devoir. Il est en retraite, si vous voulez, en retraite définitive. C'est-à-dire qu'on ne le verra pas, mais il est toujours parmi nous.
Qu'est-ce que vous en pensez, les autres ?
Je trouve que c'est très beau qu'en Europe, on devrait faire pareil. Au lieu de pleurer toutes les larmes de son corps. Bon, on peut pleurer un moment, mais... Le but, c'est quand même le bonheur, que ce soit sur Terre ou après. Voilà, c'est ce qu'on recherche tous.
C'est pas que je conteste, c'est juste que je suis en Afrique aussi. Je suis en Mauritanie. Chez moi, je n'ai jamais assisté à la fête des morts, en fait. Nous, on pleure les morts. On les pleure même beaucoup. On ne les fête pas. Ça dit, si quelqu'un meurt, c'est une perte. On est en deuil. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Il y a même des fois des gens qui sont traumatisés à cause de ça, parce que c'est des êtres humains qu'ils ont perdus. Donc, quand vous êtes Africain, on vous dit des choses sur l'Afrique que vous n'avez pas vécu, et que vous connaissez aussi d'autres pays qui sont autour de votre pays qui ne vivent pas ça, c'est juste ce que je voulais exprimer, quoi. Ce qu'ils disent, c'est seulement ça existe, ils l'ont vécu. Mais ça m'a semblé bizarre que je suis né en Afrique, j'ai grandi là-bas. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça. Donc c'est pour cela que j'ai été un peu intrigué, quoi.
Excusez-moi, juste pour rassurer monsieur, parce qu'il vient de la Mauritanie, où effectivement il y a une culture africaine et musulmane très forte. Je ne dis pas que dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, c'est Halloween. Je dis juste qu'effectivement, lorsqu'il y a un enterrement, on va réciter et faire le deuil de la personne, mais il y a ce chant traditionnel qui est là. Même en Mauritanie, tu as déjà entendu des percussions. Même si c'est un pays très arabophone, c'est des choses qui existent dans toute l'Afrique.
Nous, en Europe, on pleure les morts parce que on pense à nous, le chagrin que nous avons, on les pleure parce qu'on les a aimés ou on les aime, mais on pense pas à eux que peut-être parfois aussi c'est le bout d'un chemin où ils ont terminé de souffrir. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie incurable et qui souffre énormément à la fin de sa vie, c'est une délivrance, la mort, à ce moment-là. Et là, c'est très égoïste de pleurer, de ne faire que de pleurer à l'enterrement et de ne pas penser à la personne qui s'en va et qui est soulagée de ses souffrances et qui, pour elle, c'est peut-être une nouvelle vie de bonheur qui commence ailleurs.
Bien, nous, en Norvège, on fait des sacrifices. On va tuer des brebis, des lapins, pour accompagner nos morts. Voilà.
Vous les mettez où, les brebis et les lapins ?
On les saigne, on fait couler le sang et après on s'arrose tous de sang.
C'est quoi le symbole ?
C'est pour accompagner nos morts, pour qu'ils aillent à manger là-haut.
Juste pour revenir sur votre analyse des larmes versées pendant les enterrements en Europe, sachez qu'en Afrique, il y a des pays où, pendant les enterrements, vous avez des groupes de filles que l'on appelle les pleureuses. C'est-à-dire qu'en fait, une cérémonie en Afrique, elle ne dure pas 15 jours. C'est pour ça que dans les cérémonies, il y a une étape qui est religieuse, il y a une étape où on va chanter le mort, il y a une étape où on va se retrouver les 7 jours après. Et c'est tout un processus. Et c'est pour ça que dans certains pays, vous avez des groupes de femmes qui vont venir habiller toutes de la même façon et qui vont pleurer le mort. C'est leur métier. Donc effectivement, vous avez tout ce processus-là, mais en une journée, en une après-midi, ça se fait chez vous. Et nous, ça va durer plusieurs jours. Et je pense que tout ça, ça découle de traditions millénaires qui découlent de l'Afrique, de l'Égypte, de l'Occident, mais il y a des siècles et des millénaires.
Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, parce que en Afrique centrale, surtout chez moi au Congo, RDC, il y a des tribus où, après le deuil, il y a un groupe de gens qui sont obligés de ramener la nourriture tous les week-ends sur la tombe de la personne qui est partie. Et ça s'est fait chez les Balouba. Ils préparent, ils mettent la nourriture dans une casserole, ils ramènent jusqu'au cimetière, vous déposez ça sur la tombe et vous rentrez. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. C'est comme ça, c'est mystique, mais bon. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et c'est sérieux, ce que je vous raconte.
Ce que je regrette dans une église catholique, quand on enterre d'abord religieusement la personne et puis après on accompagne au cimetière, c'est qu'il n'y a que de la tristesse, que des gens qui pleurent. On ne sait pas mettre de la musique comme dans vos coutumes en Afrique ou, je ne vais pas dire se réjouir, c'est choquant, de la mort de la personne, mais se dire, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi, je crois à un après, la mort physique du corps. Donc, pourquoi ne pas se réjouir et aussi faire la fête ? Il peut y avoir les pleureuses, mais il y a des pays, et on ne le fait pas en France, où ils font la fête, ils dansent, ils chantent, et ça peut en choquer certains, c'est vrai.
J'ai comme un scoop. C'est-à-dire que Laurent, qui est là, musicien, il est en train de se former pour être maître de cérémonie funéraire. Alors est-ce que madame te donne des idées pour que ce rituel de la mort en France soit différent ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Je pense qu'on a besoin de s'inventer chacun ses rituels et il y a en fait déjà, même en France, des familles qui font des choses très joyeuses parfois. Vous avez raison madame, c'est pas du tout ce qui est proposé par le cadre autour, qu'il soit religieux, qu'il soit laïque. On propose souvent quelque chose de triste, mais heureusement il y a les proches, les familles qui s'en emparent plus ou moins. Et il y a effectivement, il y a des gens qui font des fêtes magnifiques en hommage à quelqu'un qui est mort. Moi, j'ai Une amie, là, sa maman, elle est morte il y a quelques mois. Et le soir de l'enterrement, ils ont fait une énorme fête. Ils ont tous dansé toute la nuit. Et c'était parce que ce qui leur paraissait le plus juste à faire en hommage. Et je pense qu'on peut trouver pour chaque personne, chercher un petit peu qu'est-ce que c'est qui la représente, qu'est-ce qui fait la résonance avec cette personne, qu'est-ce qui fait lien dans la tristesse et dans la joie.
Une petite pause musicale, on va célébrer ce moment radiophonique. Khalifa, merci Laurent, super duo, improvisé en plus. Alors, messieurs, dames, revenons-en à nos moutons.
Les pays comme le nôtre, c'est les pays en général qui sont attachés très fortement à la religion. Donc, dans notre religion aussi, nous vivons pour que demain, après la mort, nous soyons parmi les gens du bien. Donc, pour cela, il faut préparer ça dès le vivant. Donc, c'est pour cela qu'on a le concept de l'enfer et du paradis. Donc, c'est en conséquence, si quelqu'un meurt, par exemple, on le pleure. C'est pour cela que j'ai du mal à voir chez nous un mort qui sert à célébrer par des fêtes ou par de la musique. Chez moi, la Mauritanie, la grande majorité de la population estime que la musique est interdite déjà par la religion. Donc, nous aurons toujours du mal, en fait, d'aller fêter quelqu'un qui est mort, ou bien accompagner quelqu'un qui est mort et faire de la musique.
Comment ça se passe, du coup?
Quand quelqu'un meurt, on essaie de se débarrasser de lui le plus rapidement possible pour l'enterrer, quoi, en fait. Parce qu'on dit plutôt qu'il est enterré, et mieux c'est pour lui, quoi, en fait. À part certains, par exemple, qui sont morts dans un autre pays, où il faut le rapatrier chez lui, des fois ça prend du temps. Mais sinon, quand tout est réuni pour l'enterrer, on fait le plus tôt possible pour l'enterrer, quoi. C'est comme ça qu'on voit les choses chez nous.
Ce qu'il dit, c'est ce qui vaut pour la religion musulmane. Et cette religion musulmane, elle est valable au Mali, elle est valable au Sénégal, elle est valable pour les Ivoiriens musulmans. C'est la tradition. Plus rapidement possible, avec les louanges et les prières qui accompagnent le défunt. Par contre, il y a des traditions du temps de l'animisme qui accompagnent cette religion. Et lorsqu'on nous on parle de griot, on ne parle pas de musique festive, on parle de chant traditionnel. En général, il n'y a pas d'instrument. Au pire, il va y avoir des percus ou des bols qu'on va retourner. Mais c'est des chants, ce n'est pas de la musique. Il n'y a personne qui danse derrière un corps qu'on va mettre en terre.
Moi, je ne suis pas en train de légitimer est-ce que c'est bien ou pas. Je suis juste en train d'expliquer le fait que nous, chez nous, nous avons des cultures et des mœurs qui ne sont pas pareilles que dans d'autres pays, quoi, en fait. Chez moi, par exemple, on fait la différence entre la musique et la religion. On ne veut pas que les choses s'entremêlent, quoi, en fait.
Ben, chez nous, si on garde quelqu'un, il est décédé, on peut garder. Si c'est, il est mort dans la nuit, on peut garder jusqu'à lendemain à 13h du matin, comme on va prier sur lui, on demande Dieu, il pardonne, on accompagne. Jusqu'à 40 jours, il n'y a pas la musique pour l'amour. Nous, chez nous, l'islam, c'est interdit.
Et vous, vous êtes de quel pays?
Moi, je suis Guinée, République de Guinée.
Dans mon pays, je suis serbe ex-yougoslave. Quand il y a des décès, on met les fleurs ou je ne sais pas, et un peu dessous, dans le trou où il y a le cercueil. Et vu que j'ai perdu, si je peux le dire, j'ai perdu beaucoup de personnes, j'ai pleuré de tout mon corps.
Oui, normalement, l'islam, nous, c'est nous quand même. S'il est décédé, on peut l'accompagner comme le premier jour il est venu du monde. Nous, il part avec le... Comment je vais t'expliquer ça? Je ne sais pas si c'est des couvertures. Nous, chez nous, c'est le couverture blanc. On va l'amener, le imam, ils vont le laver propre. Il ne peut pas partir avec quelque chose. Aïe, hein.
Saleté, quoi.
Saleté, quoi.
Là, on parle de la mort, précisément en Afrique. Mais chaque coin a ses particularités pour honorer leurs morts. C'est toujours comme ça. En Afrique centrale, donc chez les Balouba, la Bandundu, Mbandaka, un peu au nord, même vers le Cameroun aussi, ils célèbrent les morts. Et les jours de l'anniversaire de sa mort, ils creusent l'endroit où ils ont mis le corps de la personne qui est partie. On enlève sa crâne. Ouais, on enlève sa crâne et on va remettre le crâne dans la maison où il vivait. Donc, pour eux, ça veut dire que la personne est toujours là. Donc, éternellement, ouais. Ben oui, c'est comme ça.
Que les absents du monde entier reposent en paix, quelles que soient les traditions, les us et les coutumes.
Bon, ben, on a appris plein de choses. Hein. Merci beaucoup pour ce paysage culturel de l'enterrement, des cérémonies funéraires. Merci à Laurent, merci évidemment à Khalifa. On fait un dernier petit tour pour se quitter en musique, en mots. N'hésitez pas à rajouter un petit quelque chose si vous avez envie de le dire.
Sois la meilleure version de toi-même sans drogue ni alcool.
Merci d'être là.
Merci Alexandra.
Merci à tous et à très bientôt.
La cocaïne est un fléau, méfiez-vous.
Merci la radio. On
peut être tellement heureux sans drogue. J'en ai jamais pris de ma vie et ça ne me manque pas.
Merci pour cette rencontre et c'était tellement intéressant. Et surtout, à la prochaine.
Ah oui, j'étais ravi quand même d'être avec vous, de partager avec vous ces moments-là. Et je vous remercie pour ça. Voilà, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Quand même, Dieu nous pardonne et Dieu nous protège.
Merci au nouveau d'être venu, de vous être lancé, parce que c'est pas facile, hein, des fois, de venir dans un groupe comme ça. Voilà, donc merci à tous.
Bon, merci les amis. C'était instructif, bien, et j'espère que ça continuera. Et puis, merci à vous.
Dylan, on se dit au revoir. Un petit mot dans le micro.
Ça change.
Ça change ? Ah, ça change les idées. Merci d'être venu. Je suis contente que tu sois venu, Dylan.
Laurent, un grand merci d'être venu remplacer Pablo, de nous avoir charmé avec ta musique. Un petit mot ?
Eh bien, merci à tous. C'était très intéressant d'entendre plein de points de vue différents là-dessus, sur la drogue, sur la mort. C'est super. Bravo à tout le monde.
Et on finit en musique, vas-y Khalifa. On se retrouve le 20 mars ici à la Maison dans le Jardin, Radio Mobile Paris, en direct. Au revoir à tous.